Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, hein, comme nous. Et c'est à ça que nous sommes appelés par le Seigneur, hein, à être heureux. Réjouissez-vous et nous devons le faire, surtout aujourd'hui que nous sommes en communion. Alors, on va commencer par une lecture dans l'évangile de Matthieu. Chapitre 24, on va lire du verset 36 à 44. 24, 36 à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous n'y penserez pas. Chaque fois que je lis ce verset, j'ai froid au dos. Parce qu'on peut se dire, mais comment un Dieu d'amour a pu-t-il écrire ces choses-là? Mais c'est justement parce qu'il est un Dieu d'amour qu'il a écrit ça. Mais sachant que nous n'avons pas les mêmes pensées de Dieu. Et il nous le dit clairement, lui. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Les Juifs, ils attendaient un grand conquérant, un grand libérateur, avec un cheval blanc. Mais les pensées de Dieu ne sont pas les mêmes. Il est rentré à Jérusalem, assis sur un moulin. Ils attendaient d'être délivrés de l'esclavage des Romains, de l'Empire. Mais Jésus, Dieu, il a utilisé une autre façon. Il nous a délivrés par son Fils. Et chaque fois que je lis ce verset, oui, j'en ai froid au dos. Parce que dans nos familles, il y a des gens qui encore ne connaissent pas le Seigneur. Et comme il nous est dit ici, hein, il faut faire très attention. Vous savez, je crois que tout le monde il a entendu parler de la ville de Pompéi. Hein. C'est une ville qui se trouve tout près du Vésuve, de Naples. Le 24 août 79 après Jésus-Christ, les gens ils se sont réveillés. Le matin, ils ont vu quelques brides de lave qui est tombée sur eux, mais voilà. C'est un volcan, il n'est pas loin d'ici. Et les soirs, le volcan il s'est mis vraiment en pétard, comme on dit. Et la ville entière a été submergée par la lave. Tous y sont morts. Et à l'instant, parce qu'ils ont trouvé des corps, comme la lave est tombée dessus, ces corps-là, ils sont morts à l'instant. Il y en a qui, ils avaient les mains levées, il y avait des mains qui étaient avec un marteau et tout ça. Donc c'est paf. Et c'est exactement ce que ce verset-là, il me font penser une éruption violente. Et en moins de 24 heures, plus de Pompéi. Plus de Pompéi. Les gens s'étaient levés le matin, tranquillement, ben voilà, une nouvelle journée, je vais au travail. Et les soirs, plus rien. Comme quoi, hein? Les textes bibliques que nous verrons lire dans Matthieu 24 nous annoncent aussi un jour spécial. Un jour spécial qui va arriver. Pourquoi je dis il va arriver? Parce que Dieu l'a. Il le dit dans sa parole. Un jour spécial, un jour sans précédent. Parce que ce jour-là, il ne concernera pas que la ville, qu'une ville, comme ici, je vous ai dit, des Pompéi, mais ça concerne le monde entier. C'est un jour spécial. Qu'est-ce qu'il va s'arriver ce jour-là? C'est que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, il va venir. Il va venir. Hein? Il y a dans ce verset, qu'on va un peu regarder, il y a dans ce verset trois certitudes. Trois certitudes, hein, au sujet du retour de Jésus-Christ. Et encore une fois, je vous répète les mots, c'est des certitudes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'encore une fois, la Bible, c'est pas moi qui l'a écrit, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui a insufflé à un homme de l'écrire. Donc il y a trois certitudes sur le retour de Jésus-Christ. Et qui est toujours très important de se rappeler. La première certitude qui nous montre ce verset, c'est que Jésus-Christ, il va venir. Jésus-Christ, il reviendra. Mais nous ne savons pas quand. Et c'est là le problème. Mais la certitude, c'est qu'il va venir. Au verset 37 et 39, il nous est dit l'avènement du Fils de l'homme. Et au verset 42, il dit « Votre Seigneur viendra ». Et au 44, « Le Fils de l'homme viendra ». Vous savez, ce retour de Jésus-Christ, ce n'est pas le jugement final, ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il nous est montré que Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ, il va se vérifier en deux parties. La première partie, il va revenir tous ceux qui lui ont fait confiance, tous ceux qui lui ont ouvert le cœur. Et ici, il parle de ça. Le Fils de l'homme, il reviendra. Et la deuxième partie, toujours dans le chapitre 24, je n'ai pas touché, mais un peu plus loin, c'est marqué, lorsque le Fils de l'homme, il viendra dans la gloire. Ça, c'est différent. Parce que pour venir le sien, il ne vient pas dans la gloire, mais il vient, il s'arrête, et il va enlever tous ceux qui lui ont fait confiance. Mais lorsqu'il va venir dans la gloire, ça va être vraiment la cata. Parce que c'est dans la gloire qu'il vient. Premièrement, il est venu en tant que juge, en tant que sauveur, pardon. Mais lorsqu'il viendra dans la gloire, c'est en tant que juge. Et ici, il nous est dit, ces versets, ils font partie de 320 versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent du retour de Jésus-Christ. 320 versets. Donc ce n'est pas un seul verset, 320. Donc ça veut dire que c'est vraiment une certitude. Hein? Donc c'est bien établi dans la parole que Jésus-Christ, il va revenir. Il va revenir. C'est une certitude. Mais là, on se pose la question, quand il reviendra? Ah, ben là, on est curieux, hein? On est très curieux. On veut tout savoir. Mais voilà la réponse claire et nette de Jésus au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Encore une fois, le retour de Jésus-Christ y en fait certain, mais les moments, il n'est pas connu. Plusieurs, ils sont déroutés de cette parole de Jésus. Comment ? Il nous avertit et ne nous dit pas quand. Mais oui. Hein? Plusieurs, et ils se disent aussi, il dit comment ? Tu me dis que Jésus-Christ est Dieu ? Et s'il dit qu'il ne connaît pas quel Dieu qu'il est ? Ben oui, si on réfléchit, n'est-ce pas ? Dieu, il est omniscient. Dieu, il est omnipotent. Donc, pourquoi Jésus, il ne le sait pas? Pourquoi il dit qu'il ne le sait pas, puisqu'il est Dieu? Mais il faut faire très attention là aussi. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ, en venant ici-bas sur terre, il n'est pas venu en tant que Dieu, mais il est venu en tant qu'homme. Pourquoi c'est très important ça? Parce que en venant en tant qu'homme, il a pu vivre et souffrir tout ce que nous souffrons aujourd'hui. Et justement, Jésus, il a choisi de limiter sa puissance. Pourquoi? Parce qu'il est venu en tant qu'homme. Par exemple, il y a omniprésent, nous savons, omnipotent et omniscient. Et là, on peut se dire, mais omniprésence, voilà. Jésus, s'il s'est trouvé à Jérusalem, il ne pouvait pas se trouver en Samarie. Pourquoi? Parce qu'il est homme. Et pourtant, il dit qu'il est omniprésent. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a vécu en tant qu'homme. Vous savez, Jésus, beaucoup, il ne l'accepte pas, mais Jésus, il est humain et il est divin. Ça, beaucoup, ils ne l'acceptent pas. Mais c'est ça que Jésus, là. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait s'il voulait aller en Samarie? Paf, en Samarie. Non, il a marché. Pourquoi il a marché? Parce qu'il était homme. C'est tout. Et aussi, on voit que l'omnipotence, voilà, vous en souvenez, la tentation de Satan. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, hein, voici ce pierre-là, transforme-le en pain. Pourquoi il lui dit ça? Parce que Jésus, c'est marqué, il avait faim. Est-ce que Dieu, il a faim? Dieu, il est esprit. Mais en tant qu'homme, il avait faim. Il aurait pu le faire, mais encore une fois, il s'est limité en toutes ces choses-là. Parce que la seule chose qui lui intéressait, c'est d'accomplir ce pourquoi il était venu. J'en ai parlé ce matin à l'étude pour ceux qui étaient là. Hein, entre les trois personnes de la Trinité, il y a cette union, cette soumission, cet amour. Il y a trois dieux, comme je dis toujours. Ne me demandez pas des explications. Je ne sais pas. On peut rapprocher sur des choses, mais on ne connaît pas. Le Père, il a préparé le salut. Jésus-Christ, il l'a accompli. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui touche le cœur, tous les trois. Voilà pourquoi Jésus, il a limité ses facultés. Et ici, dans le chapitre 24, Jésus, il ne s'est pas servi de son omniscience. En disant, moi je suis Dieu, je connais tout. Il a dit, non, ne me demandez pas ça, je ne sais pas. Pourquoi il ne savait pas? Parce qu'il répondait en tant qu'homme. Il s'est limité. Hein? Si Jésus avait constamment exercé ses attributs, est-ce qu'il aurait pu souffrir? Est-ce qu'il aurait pu mourir? Non. puisqu'il est Dieu. Mais il nous a dit qu'il a appris l'obéissance par ses souffrances, par son obéissance. Pourquoi il nous a dit qu'il a appris l'obéissance? Parce qu'en tant que Dieu, il n'avait pas à apprendre. Mais en tant qu'homme, oui. Voilà, nous pouvons nous confier en lui, car lui, il a souffert, il est passé partout où chacun de nous peut passer, où il a passé, où il passera. On ne sait pas. Mais Jésus, il ne savait pas quand il reviendrait. Pourquoi? Parce qu'il était en tant qu'homme. Voilà pourquoi si sa crucifixion ne lui avait pas causé aucune douleur, est-ce que vous croyez que dans Ésaïe 53, c'est marqué que nos souffrances, nos maladies, ils étaient sur lui? Non. Il est mort. Parce que c'était un homme. Et Jésus ne savait pas. Est-ce que nous avons besoin de savoir? Dieu, il nous a révélé dans sa parole ce dont nous avons besoin, mais il ne nous a pas révélé ce dont nous avons besoin de savoir. Hein? Nous avons, la seule chose que Dieu nous a dit, c'est, voilà, Aldo, tu es pécheur, tu es condamné, si tu ne te répands pas, si tu ne te convertis pas, tu vas être jugé, tu vas être condamné. C'est tout. Il ne dit pas ni comment, ni quand. Non. C'est les choses que nous devons savoir. Il y a tant de choses, et le frère Roland, il a dit ce matin, les choses à Dieu, elles sont pour Dieu. Pas pour nous. S'il ne nous les a pas révélées, nous ne devons pas chercher à savoir, comme il existe des gens qui cherchent à connaître. Il y a même eu des gens qui ont établi des dates. Les calendriers des Mayas, les témoins de Jéhovah, voilà. Hein? Voilà. Il a eu même mon ancien pasteur, hein, il disait qu'il savait quand Jésus y revenait. C'est un peu. Hein? Voilà. Jésus ne le sait pas et toi tu le sais. Mais il était tellement ancré dans sa foi qu'il voyait le Seigneur Jésus venir d'un moment à l'autre. Hein? Voilà. Si Jésus ne le savait pas, nous non plus. Car Si on essaie de chercher, on est un peu orgueilleux. Nous voulons nous mettre à côté de Dieu. Si Dieu ne les a pas révélés, c'est que nous n'en avons pas besoin. Et il y a Martin Luther, voilà ce qu'il dit. Il dit, dans sa révélation, Dieu dit aux pécheurs tout ce qu'ils ont besoin de savoir et non pas tout ce qu'ils aimeraient savoir. Il y a beaucoup de gens, je m'en souviens, une sœur, elle a dit, « Ah, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel. » Tu es dans le ciel. Quand tu es mort, tu vas au ciel. Et tu es avec ton Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Tout ce que les gens ils disent, c'est des, comment on dit, des extrapolations, hein, c'est des gros mots que j'utilise pas beaucoup, hein, c'est extrapoler, quoi, hein, aller plus loin de la pensée de Dieu, c'est de l'orgueil. Et le Seigneur, il nous a dit, quand c'est que ces choses arriveront? Personne ne le sait, personne. Donc, on a vu que premièrement, Jésus, certitude, il reviendra, mais nous ne pouvons pas savoir quand. Deuxième certitude que ce verset nous dit, nous devons être toujours prêts. Ça, c'est une certitude. Car Jésus, il peut revenir à n'importe quel moment. Il faut être prêt. Et vous savez, Dieu, il nous laisse volontairement dans l'ignorance. Volontairement dans l'ignorance pour être dans la vigilance. dans la vigilance. En tant que chrétien même, hein, voilà, j'ai fait un péché et dit, oh, je vais demander pardon à Dieu demain matin quand je me réveille. Qu'est-ce que tu sais si tu te réveilles? Tu ne sais pas. Être dans la vigilance lorsqu'on est dans les péchés, demandons pardon à Dieu. Tout de suite, ne traînons pas, car personne ne sait le jour que va venir. Personne ne le connaît. Donc Dieu fait ça volontairement pour que nous soyons dans la vigilance, car nous devons être prêts chaque jour, chaque heure, à chaque moment. Vous en souvenez ce qu'il avait dit le Seigneur lorsque la tour de Siloé il était tombée. Les gens autour d'eux ils disaient, mais alors Seigneur, ceux qui sont morts, ils étaient tous des pécheurs. Il a dit non, la tour de Siloé est tombée. Mauvaise construction, ce n'est pas le Seigneur qui a dit ça. Hein? Pourquoi une tour ou une maison, il s'écroule? Ben, mauvaise construction, mauvais matériaux et tout ça, n'est-ce pas? Elle est tombée. Mais le Seigneur, il dit non, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus pécheurs que vous, ou moins pécheurs que vous, mais c'est parce qu'il faut être prêt à mourir n'importe quel moment, il faut être prêt. Et c'est ça que le Seigneur il désire nous avertir, une cette seconde certitude. Hein? Et le Seigneur, dans le verset 37 à 41, il utilise deux images pour souligner cette nécessité d'être toujours prêt. La première image, elle a été tirée de la vie de Noé, au jour de Noé. Hein, vous savez ce qui s'est passé au jour de Noé, les déluges. Il dit, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que les déluges viennent, et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il y a des personnes, il y a des gens qui se disent, « Ah, lorsque le Seigneur Jésus va revenir, on va être tous convertis. » Et c'est alors qu'on va présenter à Dieu ce monde. Mais Jésus-Christ, il a dit exactement le contraire. Alors, je vous demande, je me pose aussi la question, à qui devons-nous croire? À ces personnes ou à ce que Jésus dit. Jésus, il a dit, lorsque le Fils de l'homme il viendra, trouvera-t-il de la foi? En disant ça, ça veut dire quoi? Il n'y aurait pas beaucoup de monde qui aurait la foi. Par exemple, les catholiques, c'est ça, ils pensent ça. Ils sont dans ce millénium. Hein? Aujourd'hui, ils sont dans le millénium et ils doivent convertir tout le monde. Ils s'appellent tous frères, sœurs, musulmans et tout ça. Ils sont tous des frères. Ils sont en train de construire une fraternité mondiale. Tout ça est contre la parole de Dieu. Et ici, le Seigneur, il dit comme un jour, il arriva au jour de Noé. Il arrivait quoi au jour de Noé? C'est que Dieu lui a dit, construis-toi une arche. Hein? Et la pluie n'était pas encore tombée. Et alors ils construisaient une étrange chose que les gens ils n'avaient jamais vue. Il a dit, qu'est-ce que tu fais, Noé? Et il a dit, mais le Seigneur il m'a averti que bientôt il va y avoir un déluge, il va y avoir de l'eau qui va tomber. Et il lui riait au nez. Et Noé, il leur disait, il prêchait l'évangile. Répentez-vous, convertissez-vous. Pourquoi je dis qu'il prêchait? Parce que Pierre, il appelait les huitièmes prédicateurs. Il prêchait l'évangile, convertissez-vous, venez au Seigneur, il vous sauvera. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Jusqu'au jour, comme le dit ce verset, Dieu, il a fermé la porte de l'arche. Et là, et l'eau, il a commencé à tomber. C'est quelque chose qui n'y est pas dans la parole. Mais je m'imagine, lorsque les gens, ils ont vu l'eau qui montait, ils ont été à l'arche. Noé, ouvre-nous. Dieu a fermé la porte. Et lorsque Dieu il ferme une porte, on ne peut plus l'ouvrir. On ne peut plus l'ouvrir. Voilà pourquoi il a dit, il sera la même chose. Noé, il prêchait à ses contemporains, mais ils ont réagi avec indifférence. Je m'en fous de ce que tu me dis. Hein. Moi, j'ai vu ma vie. Aujourd'hui, il arrive quoi lorsque vous témoignez? Répands-toi, convertis-toi. Dieu, il va intervenir dans ce monde. Il t'est rayonné. Ou sinon, à force de vous connaître, il dit, ah tiens, Aldo, changeons de trottoir. Parce qu'il nous parle de Dieu. Ou sinon, ils continueront avec toi, mais ils te diront avant de commencer, ils te diront, hein, tu ne me parles pas de Dieu. Hein? C'est ce qu'ils disent aujourd'hui, hein, à propos de la religion, de la foi. C'est une chose privée. Mais ce n'est pas tout à fait privé, la foi. La foi, il faut la partager. Le Seigneur, il nous a appelés à les servir comme ça. C'est à nous de prêcher la parole. Mais ici, on voit qu'ils n'ont pas voulu écouter. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Un cataclysme. Dans les mots grecs, c'est cataclysmos. Et c'est là qu'il est venu notre mot, cataclysme. L'eau, il est tombé et tout a été englouti, sauf Noé et sa famille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'arche. Ils étaient prêts. Le Seigneur, il leur a dit, et alors ils étaient prêts. Ils sont rentrés et Dieu a fermé ceux qui étaient en dehors. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque le Seigneur il va venir à prendre ses élus. Il va venir, il va les attirer dans les airs, et ceux qui restent ici, ils subiront la colère de Dieu. C'est sûr que sur YouTube, vous avez vu de petits films, hein, même dans des églises, hein, n'est-ce pas? Les pasteurs qui sont en train de prêcher la parole de Dieu, hein, voilà. Et à un certain moment, les chaises vides. Et les pasteurs, il est là. Les gens, ils ont disparu. Les pasteurs, il est là. Et c'est les films qui disent ça. Mais ça peut arriver. Hein. C'est parce que moi, je vous prêche. Si le Seigneur est bien maintenant, peut-être que je vais rester ici. Hein. Mais je me connais. Le Seigneur, il me connaît. Quoi. Mais voilà, ils sont partis. Et où est-ce qu'ils sont? Et ceux qui sont restés là, toujours dans les films, hein, il leur est revenu à l'esprit ce qui... Ils ont lu une centaine de fois dans la parole de Dieu. Ils se sont mis à genoux, ils ont prié, « Seigneur, Seigneur, Seigneur !» C'est fini, la porte est fermée. Et tu vas subir la colère de Dieu. Car si le Seigneur ne nous emporte pas, ne nous amène pas, c'est que nous ne sommes pas dans la grâce de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur le dit, « Il faut être prêt. » Ça, c'est la deuxième certitude. Et à cette époque-là, il nous a dit, il ne s'édutère de rien. Et c'est exactement lorsque le Seigneur Jésus va revenir. Car personne ne le verra. Il nous a dit, Paul, il nous dit qu'il va y avoir le son de la trompette. Hein? Et pas tous, ils entendront ce son de la trompette. Qui c'est qui l'entend? Ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui ont les oreilles ouvertes, parce qu'ils sont prêts. Les autres, ils n'entendent pas. Personne ne le verra. Mais ils verront tous ces gens qui vont disparaître. Tiens, Marlène m'a tellement parlé du Seigneur. Où est-ce qu'elle est? Il m'avait parlé qu'un jour ou l'autre, son Seigneur, il viendrait. Où elle est? Est-ce qu'elle disait vrai? Il faut être prêt. Hein? Et on a vu la deuxième image. C'est l'image qui a été tirée de la ferme. Verset 40-41, hein, il dit « Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. » C'est le retour du Seigneur. Il prendra que ceux qui lui ont fait confiance. Et ici, il nous a dit les mots « être pris hein, », signifie en grec une action violente, être enlevé. Voilà pourquoi au verset 39, la vraie traduction, il nous est dit, jusqu'à ce que les déluges viennent et les emporta tous. Hein? L'un, il sera emporté et l'autre, il restera. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il va prendre que ceux qui lui appartiennent. C'est l'image ici de Noé et sa famille. Ils sont laissés sous la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont accompli la volonté de Dieu. Et ensuite, le Seigneur, pour bien mettre dans la tête de ces gens-là qu'il faut être constamment prêt, il fait quoi? Et il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous savez, ici, la leçon est claire. Hein? Mais pour qu'elle soit encore plus claire, hein? Vous savez, Dieu il nous dit les choses clairement. Hein? Il ne faut pas s'arrêter à un verset. Hein? Pour que la chose soit plus claire, au verset 43 et 45, hein, le Seigneur il ajoute une petite parabole. Une petite, hein, parce que c'est 4 ou 5 lignes. Hein? C'est une petite parabole. Mais qui concerne toujours le même sujet, c'est-à-dire que la deuxième certitude, que c'est qu'il faut être prêt. Et il dit, verset 43-45, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Il accentue pour être encore plus clair. Et cette mini-parabole, hein, il a le caractère de l'imprévisibilité du retour de Jésus-Christ. À n'importe quel moment, il faut être toujours prêt. Vous savez, il parle du voleur. Je ne sais pas si vous avez rencontré un voleur qui te dit, tiens, cette nuit, je vais passer chez toi. Non, hein? Ça m'étonne. Et c'est exactement ce que le Seigneur, il dit. Hein? C'est exactement, les voleurs, ils surgissent quand on ne les attend pas. Quand on ne les attend pas. Hein? Mais notre Sauveur, il nous exhorte à être vigilants, à être prêts. À être prêt, à faire tout ce... Mais qu'est-ce que ça signifie, veiller et être toujours prêt? Nous avons vu que, premièrement, Jésus-Christ reviendra et personne il sait quand. Deuxièmement, on a vu une autre certitude, qu'il faut toujours être prêt. Et la troisième certitude, il nous explique qu'est-ce que ça veut dire veiller. Veiller, c'est ne pas dormir, n'est-ce pas? Être prêt, quoi, voilà. Ne pas dormir. Hein? C'est un peu comme lorsqu'on a fait service militaire, pour les hommes qui l'ont fait, hein? Lorsqu'on nous mettait à faire la garde, hein? Malheur à nous si on s'endormait. Hein? Parce qu'il y en avait un qui faisait la garde, il y en avait un autre qui était là que pour contrôler. Donc voilà, ça signifie veiller, ça signifie 4 choses. Premièrement, c'est vivre dans la foi. Deuxièmement, c'est vivre dans la repentance. Troisièmement, vivre dans l'amour. Et quatrièmement, c'est vivre dans la sainteté. Et vous savez, ce mot de veiller, il est utilisé par les apôtres. Par Pierre, par Jean, par Paul, ils sont utilisés, pourquoi? Pour nous montrer l'exactitude de cette certitude. Par exemple, ici, il nous dit, que signifie veiller? Mais, comme je vous ai dit, premièrement, c'est dans la foi. Et Paul, il utilise la même image que Jésus, il a utilisée. Par exemple, dans Thessaloniciens 5, 2 à 8, il dit, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il répète, quand les hommes diront paix et sécurité, C'est alors que soudainement, la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Les femmes, vous savez, hein, quand vous êtes enceinte, hein, on attend, on dit, tiens, ça va venir. Hein. Mais des fois, hein, elle est là. Hein. Et c'est exactement la même chose. Soudainement, la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, c'est-à-dire qu'il parle à l'Église, hein, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pourquoi on n'est pas dans les ténèbres? Parce qu'on lit la parole de Dieu. Parce qu'on lit la Bible. Et dans la Bible, Dieu, il nous parle, il nous révèle. Le Seigneur, il dit, écoutez-moi et je vous révélerai de grandes choses. Voilà, il utilise ça pour ne pas être surpris comme un voleur. Et il nous dit donc, ne dormons donc pas comme les autres. C'est ça, dans la foi. Ne dormons pas comme les autres. Pourquoi il dit ça, ne dormons pas comme les autres? Parce que les autres, ils dorment. Ils n'écoutent pas les avertissements du Seigneur. Mangeons et buvons. Hein? On vivra toujours comme ça. Il y a des gens qui parlent du 2050, du 3000. Qu'est-ce qu'ils connaissent? C'est ça. Ne dormons pas, mais veillons et soyons sobres. Soyons sobres. Hein? Pour être prêts, un peu comme les peuples juifs. Hein? Hein? Moïse leur a dit, préparez-vous, bientôt on va quitter. Ils se sont bien habillés, les sandales, les deux. Ils étaient prêts. Lorsque Moïse leur a dit, allons-y, tout le monde était prêt. Il y a même ceux qui n'appartenaient pas au peuple juif qui se sont mis dedans. Et aussi, ils étaient prêts, veillés. Et il dit plus loin, en Corinthiens 16, veillez, demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. Donc, veiller, ça signifie vivre dans la foi. Pourquoi? Et la Bible nous le dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Voilà pourquoi il faut vivre dans la foi. Hein? Mais pas une foi juste pour dire oui, je crois en Dieu. Mais une foi ferme, inébranlable. Il y a des gens qui disent, ah, moi je suis croyant, mais je ne fréquente pas. Si tu ne fréquentes pas, c'est que tu ne crois pas. Car si on sait tout ce que Dieu nous a fait, automatiquement, je dois fréquenter les endroits où il y a mes frères et sœurs en Christ et louer le Seigneur avec tout ça. Hein? Mais nous devons être vraiment... Il y a des gens qui font la profession de foi. Hein? Ils font la profession de foi. Ils disent, j'ai la foi. Mais ils renient les œuvres. C'est-à-dire, j'ai la foi, mais évangéliser, témoigner, faire du bien à un frère, à une sœur... C'est pas ce que le Seigneur il nous demande. Voilà pourquoi le Seigneur, dans 2 Corinthiens, il nous dit, examinez-vous. Examinons-nous nous-mêmes pour voir si on est dans la foi. Examinons-nous. Et le Seigneur, vous savez, aux disciples, aux apôtres, il leur avait fait les reproches dans Marc 16, 14. De quoi? Reproche de quoi? De leur incrédulité. Seigneur, sauve-nous. Et il a dit, mais je suis là avec vous. Pourquoi est-ce que vous criez? Leur incrédulité. Et comme je vous ai dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ici? Nous devons vivre dans la foi. Veiller, ça signifie aussi dans la repentance. Vivre dans la repentance, il nous est dit dans Apocalypse 3, il nous est dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Ici, veiller, ça signifie être dans la repentance. La repentance de quoi? Qu'est-ce que c'est que le Seigneur il demande de nous repentir? De nos péchés. De nos péchés. Il faut se repentir de tout ce que nous avons pu faire de contraire à ce que Dieu il nous dit. Veiller, encore, ça signifie veiller, c'est vivre dans l'amour. Vivre dans l'amour. Et nous a dit Paul, qu'il écrit aux Thessaloniciens, toujours, chapitre 5. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Veillons, soyons sobres, revêtons la cuirasse de l'amour, de l'amour. Hein? Veillez. Il dit dans Corinthiens 16 aussi, veillez que parmi vous tout se fasse avec amour. Tout. Pas seulement ce que nous aimons, mais tout. Tout dans l'amour. C'est-à-dire, pas des paroles dures, des paroles blessantes, pas de pointer les doigts en accusant un frère ou une sœur, pas d'animosité. Ni de mauvaise humeur, pas de mensonge, pas d'égoïsme. C'est ce qu'il dit là-bas. Veillez. Tout doit se faire dans l'amour. Hein? Si nous ne vivons pas dans l'amour, nous ne sommes pas en train de veiller. Et encore, veillez, Pierre. Il dit, 2 Pierre 3, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Veiller, ça signifie vivre dans la sainteté. Autrement dit, c'est détourner de tout péché. Vivre, comme j'ai dit tout à l'heure, une vie agréable à Dieu, pour que nous soyons dignes de ce que nous sommes. Il faut harmoniser notre propre vie aux vœux de Dieu, et pas comme nous les voulons. Voilà pourquoi il nous est dit dans Hébreux, recherchez la sainteté, la sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si nous ne faisons véritablement aucun effort, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de veiller. Voilà pourquoi c'est très... Voilà les trois certitudes que ce chapitre 24 nous dit, il nous donne. Le Seigneur, il viendra. Personne ne sait quand. Deuxième certitude, hein? On l'a vu, hein? Il faut être prêt. Et troisième certitude, il faut veiller. Je termine avec cette petite histoire que j'ai vue, qui était très, très instruisante. Hein? Un professeur, il a annoncé à sa classe qu'elle devait partir quelque temps. Et alors il a dit, lorsque je vais revenir... Je vais donner un gros cadeau à celui qui a son banc le plus propre. Celui qui a le plus propre. Et alors, il y avait une jeune fille, qui s'appelait Marie, excuse-moi Marie, il s'appelait Marie, et comme tout le monde savait que Marie, il n'avait pas son banc d'école très propre. Et alors il a dit, oh Marie, tu ne gagneras jamais. Tu ne gagneras jamais, ton pupitre est toujours mal propre. Et Marie, il dit, j'ai l'intention de le nettoyer les premiers jours de chaque semaine à partir d'aujourd'hui. Les premiers jours de chaque semaine. Et ils lui ont dit, mais Marie, et si le professeur revient à la fin de la semaine? Mais alors je vais le nettoyer chaque matin, dit Marie. Quelqu'un lui a dit, mais il pourrait venir à la fin de la journée. La fillette est demeurée silencieuse un moment. Puis elle a déclaré d'une façon résolue, je sais ce que je vais faire. Je vais tout simplement le garder toujours propre. Pour qu'il soit toujours propre. Hein? Pour terminer, sachant que notre Seigneur et Sauveur peut revenir à tout moment. Alors, soyons tout le temps prêts. Et par sa grâce, nous pouvons et nous devons vivre dans la foi, hein, dans la repentance, dans l'amour et dans la sainteté. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.